Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en.
Elle m'angoisse, cette forêt.
Vous êtes chiants, les gars.
C'est pas nous qui sommes chiants. C'est la nature qui est chiante. Je m'emmerde, moi. J'en ai marre de la verdure. Tout est vert.
CO2, mon amour.
Je respire. L'air est pur, tout est calme.
Est-ce que tu trouves ça calme, toi?
Ah oui.
Ah, mais merde. Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme.
Denis chez Sou.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être! Ils commencent à me taper sur le système, ces oiseaux.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, vous l'avez entendu à l'instant, avec Hélène Langlois et Élise Christophe à la technique, je n'oublie pas Ben Kachmarek avec nous, Albert Houck, et c'est Marion Philippe qui nous assiste, Marion, avec Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Alors une petite humeur, parce que c'est vrai que c'est passé un peu inaperçu. Hier, c'était quand même un grand jour. Alors pourquoi ? Parce que c'était l'accord de Paris sur le climat, obtenu en décembre 2015, qui est entré en vigueur le 4 novembre. Alors il fallait la ratification d'au moins 55 pays pour que l'accord soit applicable. On en est à 70 et la France, faut le dire, a bien œuvré en ce sens. Bon, faut dire qu'il y avait un petit peu le feu, si vous voulez, sous la casserole terre qui commence gentiment à bouillir. Donc youpi, vive nous les terriens qui prenons enfin conscience des perturbations climatiques, n'en dépèse à Claude Allègre et d'autres, que nous engendrons à l'échelon planétaire. Et alors, les confettis et autres serpentins ont été lancés avec frénésie dans le vaste monde à l'annonce de cette nouvelle. Bon, bah, et puis après, bah, ça retombe gentiment sur le sol, les mirlitons se taisent, les flonflons retombent aussi, car Greenpeace nous le rappelle, et bah, il n'y a peut-être pas forcément de quoi pavoiser, en tout cas aujourd'hui. Ce sont toujours des rabat-joie d'écolo, on le sait. Heureusement que le Sénat a repoussé un amendement sur les lanceurs d'alerte. Apparemment, en fait, notre Marianne a oublié de prendre fermement le train en marche des énergies renouvelables. Alors, un peu, oui, un peu. Beaucoup, non. Il faut dire que quand on dispose de tout un parc de centrales nucléaires basse émission de CO2, on se pense invincible. Et là, en ce moment, c'est un peu dur quand même pour EDF. C'est un peu dur pour le réseau, parce que EDF a dû reporter le redémarrage de 5 réacteurs, a revu à la baisse son objectif de production nucléaire. Bon, nous verrons donc la suite. La programmation aussi pluriannuelle de l'énergie, la PPE pour les intimes, a été publiée fin octobre dernier et remet quand même en cause la transition énergétique, pourtant claironnée au son de croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Une partie, je dis bien une partie, de la dite PPE cadre mal avec les objectifs de la loi de transition énergétique qui a été votée à l'été 2015. Alors c'est ballot parce qu'on a bêtement oublié d'indiquer la moindre trajectoire quant à la réduction de la part du nucléaire dans le mix nucléaire français. Ah bon, oui. Alors que la programmation de la fermeture des réacteurs dans la PPE aurait pu constituer un signal fort et inciter les investisseurs du secteur de l'énergie à se tourner vers les énergies renouvelables hors du nucléaire. Point de salut, vous l'avez compris, on est en France. Alors vous l'aurez compris, évidemment, il est assez facile de voir dans cette entrée en vigueur la bouteille à moitié vide, la bouteille à moitié pleine. Morale de l'affaire, un succès diplomatique évident avec la COP21 menée par la France, mais sert-il de jouer à domicile contre le changement climatique quand on freine un tout petit peu l'accès au thermostat? Ah, et puis quelque chose qui nous a fait du bien. Moi, j'étais hier à Montpellier. Il y avait une remise des prix dans le cadre d'un salon de l'écologie à l'université de Montpellier. Et c'était des jeunes, alors, très enthousiastes, d'un master en ingénierie, en écologie et gestion de la biodiversité. Et on va écouter ce jeune de 21 ans, Théo Tsepoglou.
Moi, j'aurais vraiment envie de faire de la... toujours un volet terrain, donc études scientifiques sur le terrain, pour m'imprégner vraiment des réalités, des problèmes, mais aussi de faire de la médiation et vraiment de faire de l'animation naturaliste et de parler aux gens, parler aux élus pour vraiment sensibiliser. Parce que si j'ai vraiment découvert quelque chose, c'était que pour faire changer les choses, pour faire évoluer les consciences et améliorer l'état de la planète, il fallait sensibiliser les gens. La recherche dans les labos, c'est très bien et il faut que derrière, des gens relayent cette connaissance et la transmettent aux gens. Parce que les gens sont pas bêtes et il y a beaucoup d'initiatives personnelles et quand quelqu'un se soulève et mène une action pour faire le tri sélectif ou vraiment faire bouger les choses, ça fait un effet contagieux comme vous en parlez. Et du coup, d'autres gens se rallient à cette cause. Et donc, du coup, je pense vraiment que l'écologie aujourd'hui, elle peut pas exister s'il n'y a pas une bonne communication qui est faite. Et si chacun vraiment se bouge pour faire beaucoup de choses, on peut atteindre vraiment les gouvernements pour qu'ils fassent vraiment des choses qui sont significatives pour l'environnement. il suffirait de très peu au niveau gouvernemental pour changer énormément de choses.
Théo Tsepoglou, qui a donc 21 ans, ingénierie et écologie et gestion de la biodiversité, donc en master 2 à l'université de Montpellier. Donc ces jeunes gens donc nous font évidemment beaucoup de bien. Que va-t-il se passer dans cette émission? Nous allons parler des États-Unis avec Hélène Crier, faire un petit point sur environnement et comment est traité l'environnement dans la campagne, ou plutôt effectivement peut-être maltraité. Nous allons parler aussi du granulé bois. C'est pour ça que j'ai failli intituler l'émission « Si tu écoutes, je granule tout ». Voilà, c'est fait. On parlera de réseau de chaleur, et puis vous êtes là évidemment, Frédéric Noé. Et attendez, pour vous accueillir, Frédéric, ouais. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un rapport. Bonjour Frédéric.
Bonjour, mais qu'est-ce que je vous ai fait?
Non, mais rien, simplement, je sais que nous allons parler donc de l'accord de Paris, avec justement le côté un peu maritime de l'affaire.
Voilà. Oui, alors effectivement, l'accord de Paris, bon, la France n'est pas tout à fait comme il faudrait, bon, tant pis, voilà. Mais l'accord de Paris, quand même un succès, on est déjà à la ratification au bout d'un an. Et puis ça, il y a eu un effet domino, hein. On en a parlé, les HFC ont été interdits à Kigali. L'industrie de l'aviation...
Les HFC, c'est ce qui bousille la couche d'ozone.
C'est ce qui bousille la couche d'ozone. L'industrie de l'aviation a accepté de discuter de ces émissions. Et puis l'industrie maritime... accepter l'idée qu'on contrôle ces émissions de CO2. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, faut savoir que l'industrie maritime, c'est-à-dire le transport de nos marchandises, hein, 90% de nos marchandises nous parviennent par voie maritime, c'est l'équivalent en termes de CO2 de l'avion. Par
contre, 3% à peu près.
3-4%. Par contre, c'est 9 fois plus que l'avion en termes d'oxyde d'azote, c'est 80 fois plus en termes de dioxyde de soufre, c'est 1200 fois plus en termes de particules. Si vous voulez un bon gros paquebot avec 17 cheminées qui est garé au port pendant 2 heures, émet dans l'atmosphère à peu près autant que la ville de Marseille en une année, plus en gros la région PACA.
Super.
Si on se blâme sur les microparticules et le dioxyde de soufre. Et donc, l'Organisation Maritime Internationale a redit que l'objectif de diviser en gros par 350 les émissions de soufre, qui était initialement prévu à 2020, et ben cet objectif est maintenu et ça change tout. Jusqu'à présent, les bateaux utilisent du fioul lourd.
Oui, c'est ça.
Voilà, comme celui de l'Erika.
Oui, donc c'est quasiment du bitume. Hein,
c'est quasiment du bitume, mais ils ont raison de le faire vu qu'il n'est pas taxé. Et donc, à partir de maintenant, ils seront obligés d'utiliser du fioul lourd désoufré ou du diesel, voire du gaz naturel liquéfié. Il faut savoir que la teneur en soufre obligatoire va passer de 3,5% à 0,1%. C'est déjà le cas en Manche, c'est déjà le cas en Baltique, c'est déjà le cas en mer du Nord, c'est déjà le cas aux États-Unis dans la zone Caraïbe sous influence américaine. Ce sera le cas à peu près partout dans le monde. Ça va s'appliquer à partir de 2020 et c'est une révolution.
Ça faillit sur 2025, hein, donc, mais là, ça.
L'OMI a tenu bon face au lobby des armateurs qui sont déjà économiquement très fragilisés par la baisse des exportations depuis la Chine, vu que la Chine est en train de consommer ce qu'elle fabrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût des marchandises nécessairement va augmenter parce que le coût de ces carburants ne peut qu'augmenter. Ça veut dire qu'on a une transition vers le gaz qui est en train d'arriver. On en parle beaucoup dans cette émission à propos des autos ou des camions. Et bien pour les porte-containers, voire pour les grands paquebots de demain, ils fonctionneront au gaz naturel liquéfié, ce qui est en soi une révolution énergétique.
Mais alors en ce qui concerne, mettons, si on clique sur le CETA, alors il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, ça a été bien balayé sur France Inter, on l'a dit aussi, mais le rapport quand même avec aujourd'hui le transport maritime, ça veut dire qu'il s'agit en fait de faire plus de commerce, donc on utilisera davantage de bateaux.
Alors on a dit beaucoup de bêtises sur le CETA, hein, on n'en reparlera pas, mais effectivement, le CETA ne peut qu'augmenter les émissions de gaz à effet de serre parce que c'est fait pour augmenter les échanges entre le Canada, l'Amérique du Nord pour faire court, et l'Europe. Donc ça ne peut qu'augmenter l'impact du transport maritime et du transport aérien, mais surtout maritime sur le climat, ça c'est une évidence.
Bon, donc c'était notre première donc, information, notre première actualité, puis il y en aura d'autres distillées au cours de cette émission.
J'entends les criquets, les cigales. On n'est plus très loin du littoral. Le soleil est à la verticale sur la voie ferrée horizontale. J'entends soudain le signal. Je vois la barrière transversale. J'appuie comme un fou sur la pédale. L'autre arrive comme une rafale. Je et je perds mon écorce. J'enlève mes écailles. Comme n'importe quel animal allongé sur une route départementale, je me répands, je deviens pâle. Bon Dieu, j'ai perdu une sandale. Sur ma peau, je sens le mistral et l'odeur de l'essence qui s'étale. On est si loin de ma terre natale. C'était quand même phénoménal. Je sens que je me tire, je sens que je me taille. J'enlève mon écorce, je perds mes écailles. Je sens que je me tire, je sens que je me taille. Je perds mon écorce.
De Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Ah bah oui, après le transport maritime, vous voyez, il y avait un sens dans cette émission. Les écailles, hein, ça vous a pas échappé, vous, Frédéric Denré, donc avec
les écailles des bateaux.
Les écailles des bateaux, c'était ça. Bon, allez, on va se faire un petit tour aux États-Unis. C'est parti.
La question centrale dans cette élection, c'est vraiment quel genre de pays nous voulons être et quel genre d'avenir nous voulons construire ensemble.
Monsieur Trump,
nos emplois quittent le pays, ils partent au Mexique, dans de nombreux pays. Voyez ce que la Chine fait à notre pays.
Et on va rejoindre Hélène Crier-Villesner, qui est écrivain et journaliste freelance, qui vit aux États-Unis depuis longtemps, qui travaille pour Science et Avenir, pour le journal des énergies renouvelables. Bonjour chère Hélène Crier, alors racontez-nous s'il vous plaît, comment on peut voir aujourd'hui l'environnement dans le cadre de ces élections américaines ?
Bonjour Denis. Ça dépend comment on voit les choses. L'environnement n'a pas été un sujet phare de la campagne officielle, ça c'est peu de le dire. D'un autre côté, depuis l'accord de Paris sur le climat, la presse américaine ne cesse d'en parler. Et Obama revient très très souvent sur le sujet dans ses interventions. Il parle du climat, de la pollution, de la santé, de la justice environnementale. Mais bon, il y a eu 3 débats télévisés officiels entre Clinton et Trump, qui ont été, mais alors, très regardés, hein, c'est des dizaines de millions de spectateurs. L'environnement a occupé, en tout et pour tout, 5 minutes et 20 secondes sur les 4h30 totales. 5 minutes 20 secondes. Hein. Ce sont jamais les journalistes modérateurs qui ont évoqué le sujet, mais c'est Hillary Clinton à chaque fois. Alors, est-ce que ce vide environnemental dans la campagne me paraît scandaleux ? Ben, moi, pas du tout, Denis. Personnellement, je préfère que le candidat Trump, il la boucle une fois pour toutes sur le sujet, parce que quand il en parle, c'est pour proférer des âneries. Oui. Et franchement, on est habitué.
Est-ce que c'est vrai, d'ailleurs, à ce sujet, que Donald Trump a clamé et clame que le concept de changement climatique a été inventé par les Chinois pour plomber l'économie américaine ?
Ouais, il a dit ça exactement en 2012, et puis depuis, on lui ressort ça régulièrement. Il a jamais eu quand même le culot de le redire pendant un débat. D'ailleurs, oui. Je vous dis, il évite le sujet. Hillary Clinton avait essayé de le relancer là-dessus, sur cette histoire de Chine, pendant le premier débat, le premier des 3 débats. Mais il a évité la discussion. Cela dit. Trump, il a des conseillers sur les sujets qu'il maîtrise mal, c'est-à-dire à peu près sur tout. Et son conseiller énergie a participé à un débat sur l'environnement avec le conseiller de Clinton il y a une semaine. Je l'ai écouté, puis j'ai noté les points les plus importants. Mais sur l'accord de Paris sur le climat, c'est confirmé, son conseiller l'a dit, Trump l'avait dit lui-même, il sera dénoncé si Trump devient président. De toute façon, ce traité de Paris a été signé par Obama. Obama. Mais il n'a pas été ratifié par le Sénat. Alors les Américains, et ça c'est général, c'est pas seulement les supporters de
C'est-à-dire
Trump.
Qu'on peut rappeler que les États-Unis n'avaient pas non plus ratifié Kyoto, hein.
Mais non, parce que pour ratifier un accord international sur l'environnement, et puis en général, il faut que le Sénat vote pour aux deux tiers. Et ça n'arrivera jamais, jamais, jamais. Et c'est pour ça que même quand Al Gore était vice-président des États-Unis, ça n'avait pas été possible de ratifier l'accord de Kyoto. Donc Obama savait très bien ce qu'il faisait en s'engageant pour les États-Unis, sauf que ça n'engage pas ses successeurs. Hillary Clinton fera rien, elle continuera à respecter l'accord, mais si c'est Trump, il dira à l'Union européenne et aux autres, moi je me retire et c'est tout. Il n'y aura rien à faire, on ne peut rien faire d'autre.
Alors revenons sur les deux candidats. Si je prends les gaz de schiste, que disent-ils ?
Oui, alors c'est les conseillers, parce qu'encore une fois, ils n'en ont pas parlé eux-mêmes. Clinton parle de tout ça, mais en dehors des débats télévisés et tout ça. Mais bon, le fameux débat sur les conseillers, entre les deux conseillers énergie, donc oui, ils ont parlé des gaz de schiste. Alors le conseiller de Clinton assure que cette industrie doit être plus sévèrement encadrée. Mais alors, Hillary Clinton, elle est très clairement pour le fracking parce que le gaz naturel, c'est bien plus propre que le charbon ou le pétrole quand il s'agit de produire de l'énergie. Mmh. Et puis l'extraction du gaz de schiste, c'est super important pour l'autonomie des États-Unis. Les deux candidats veulent développer le nucléaire, Clinton au nom de la protection du climat et Trump pour le business. Et les fameuses énergies renouvelables.
Alors, oui.
Voilà. Clinton a l'intention, elle le clame tout le temps, elle suit en ce sens la voie ouverte par Obama. Clinton a l'intention de porter leur part à 33% d'ici 2025, contre 16% aujourd'hui. Trump a toujours dit qu'il était favorable à toutes les énergies sans distinction, à condition que les renouvelables ne bénéficient pas d'incitations fiscales qu'il juge déloyales. Ça veut dire que lui, pour lui, son gros truc, c'est le pétrole et le charbon. De toute façon, les énergies renouvelables, lui, il y comprend rien, ça l'intéresse pas. C'est à la fois un truc de communiste, de hippie, et ça va pas assez vite en business.
Lorsque l'on parle maintenant d'Obama, on va donc refermer ces 8 années donc de présidence d'Obama. Qu'est-ce que l'on peut dire d'un point de vue environnemental ?
Obama, il a fait du bon travail, si ce n'est au niveau législatif lui-même. Il a jamais réussi à faire voter quoi que ce soit par le Congrès, Sénat et Chambre des représentants. Mais il a énormément agi au niveau réglementaire. Et notamment, vous avez entendu parler de ce plan Obama pour bannir le charbon.
Les centrales à charbon, oui.
Voilà, toutes les centrales à charbon. Ça, Trump s'est violemment opposé à ça. Et il a dit qu'il allait annuler ces mesures d'Obama. Mais bon, Obama, il a donc agi réglementairement pour fermer toutes les centrales à charbon, à terme. Hein. Il a refusé, finalement, au bout de bien des atermoiements, la construction du fameux pipeline Keystone, qui voulait importer aux États-Unis les
sables bitumineux, on va dire.
Du Canada, voilà. Trump a dit qu'il allait relancer la construction du pipeline. Et puis, il y a un pipeline en ce moment qui fait beaucoup parler de lui, mais c'est un pipeline ordinaire. C'est le Dakota Access qui passe sur une réserve indienne et il y a des gros affrontements. Ça, c'est en stand-by, mais effectivement, Hillary Clinton, elle est très pressurée par les activistes amérindiens, les écologistes et tout, pour se prononcer là-dessus, mais elle dira rien. Mais bon, globalement, pour en revenir à Obama, il a permis quand même la poursuite de l'essor incroyable du solaire et de l'éolien aux États-Unis, et grâce notamment en poursuivant une politique fiscale très incitative, laquelle est très contestée par les Républicains et par Trump qui veut arrêter tout ça.
Alors nous avons aussi quand même une candidate du Green Party, ils ont un parti vert qui s'appelle Jill Stein. Qu'est-ce que l'on peut en dire ? Comment elle émerge au milieu de tout ça ?
Rien du tout. Enfin, je veux dire, elle est actuellement à 2,3 d'intention de vote. Elle est même pas présente dans tous les États. Donc ça compte pas, elle compte pour rien du tout, mais elle est bien moins importante au niveau influence qu'en son temps Ralph Nader.
Oui,
cela dit, le Green Party aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec l'Europe Écologie Les Verts ou les Grünen en Allemagne. C'est un parti qui fait un peu d'environnement, mais c'est pas vraiment son principal cheval de bataille. En tout cas, Jill Stein, elle ne pèse pas dans la campagne, pas du tout. Malheureusement, hein, parce qu'elle a quand même des sujets intéressants, mais c'est, elle fait pas l'unanimité, même parmi les écologistes ici. Hein.
Y a-t-il aux États-Unis, bon, je sais bien que vu le nombre d'États, les sensibilités sont différentes, mais y a-t-il, Hélène, une différence entre l'appropriation par les politiques et ce que ressent donc la société, ce que ressentent les gens? Nous, on sait très bien en France qu'il y a un décalage quand même assez fort entre les intentions, les désirs des politiques et puis ce que veut véritablement la société qui est toujours plus en avance. Est-ce le même cas aux États-Unis ou pas?
Oui, alors je suis un peu éloignée maintenant de la manière dont ça se passe avec la France, mais il n'y a pas d'écologie politique vraiment sérieuse aux États-Unis, mais je peux pas dire que la population a beaucoup évolué depuis une quinzaine d'années. Globalement, maintenant, les gens sont ouverts à ce qu'ils appellent la nourriture organique, c'est-à-dire bio. Mais c'est des choses sur l'énergie aussi, les gens sont un peu plus ouverts. Mais il y a quand même seulement, la société américaine est tellement divisée, partagée, en boîte, beaucoup plus qu'en France. Je trouve qu'il y a moins d'interaction entre les différentes tendances des gens. Donc il y a une partie de la société américaine qui est extrêmement réceptive à ça, bien plus que pourrait l'être la société française. Le partage, les modes de vie, mais c'est très cloisonné. C'est même pas une question de classe moyenne, de bobos, d'intellectuels. C'est tout à fait autre chose et c'est extrêmement difficile à expliquer comme ça en deux secondes. Et vous savez quoi? Je vous en reparlerai plus tard parce que j'ai bien l'intention d'écrire quelque chose là-dessus.
Un grand merci, Hélène Krievi-Yesner, et puis à bientôt.
Au revoir, Denis, à bientôt.
Merci à vous, Frédéric, petite réaction aussi.
Oui, petite réaction. Alors, je renvoie aussi de Bastamag. Il y a deux papiers traduits formidables écologie et Trump. Non, c'est étonnant. Les États qui s'engagent, qui sont susceptibles de voter largement pour Trump sont les États républicains, on s'en doute, les États où le Tea Party le plus implanté, et ce sont les États les plus pollués. Ce sont les États où les maladies liées à la pollution sont les plus importantes aux États-Unis. On peut se dire que c'est un paradoxe, et en fait, il y a un papier de Bastamac qui le montre très bien via l'interview de quelqu'un qui vit dans les bayous de Louisiane. C'est la pollution, certes, a détruit mon environnement, mais l'environnement, c'est tout ce que j'ai, moi. Et si la pollution a détruit, c'est que l'État, finalement, n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, il faut moins d'État. Et en même temps, cette pollution vient atténuer encore un peu plus ma fierté qui a été détruite par la mondialisation, par la Chine, par tout ce que l'on veut. Donc, il n'y a que Trump qui peut me protéger parce que Trump va me redonner de la fierté, même si je sais bien que si Trump est là, il n'y aura plus d'agence pour l'environnement et donc il y aura encore plus de pollution. C'est tout le paradoxe de l'écologie aux États-Unis dans ces petits États ravagés par la désindustrialisation.
C'est pour ça qu'il nous faut tous une grande psychanalyse collective, on va dire.
C'est ça.
Enfin, mondiale, mais ça, je crois qu'on veut.
Mais on est là pour ça, Denis.
Bon, voyons. Tenez, on va prendre le train, parce qu'on était à Montpellier. Ah ouais? Voilà, je vous faisais signe tout à l'heure avec ces étudiants, donc en gestion de la biodiversité à Montpellier. Et bon, ça nous a donné aussi l'idée de revenir sur une gare merveilleuse. Dans la série, vos impôts sont bien utilisés grâce à de grands et beaux projets inutiles. Eh bien, voici, donc la gare de Montpellier. Alors, qui avait été voulu à l'époque par Georges Frêche? Vous me reconnaître qu'il a été sacrément visionnaire pour sa ville, qu'il a aimé sa ville, qu'il a développé complètement. Là, il n'y a strictement rien à dire. Mais il y a quand même eu cette fameuse gare, alors qu'il y avait quand même un sens, parce que il y a la gare Saint-Roch. Alors là, qui est très bien, qui est au centre, qui vous amène tout de suite sur la place de l'Ancienne Comédie, qui est au nœud de quatre tramways, me semble-t-il.
Tout arrive là, c'est vraiment la gare multimodale telle qu'on l'entend en Europe. Et puis Georges Frêche, qui avait des idées à la Ceausescu, s'est dit non, il faut une grande gare sur le trajet de la future ligne TGV reliant Perpignan à Barcelone. Mais cette ligne n'est toujours pas financée, on est au stade de projet. Donc la gare est là, elle devrait coûter 145 millions d'euros, elle aurait dû être livrée à l'écart de tout, à l'écart du tramway, en zone inondable, le parking est en zone inondable, c'est magnifique.
Ah bah j'espère, évidemment. Oui, c'est en zone inondable.
Oui, c'est en zone inondable. Mais architecturalement, évidemment, c'est le génie français qui s'exprime. Donc 145 millions d'euros, livrable en décembre 2016, sauf que la présidente de la région, Carole Delga, a dit non, c'est fini, je ne sais pas quoi ça va servir.
Ils ont sorti 8 millions, mais elle refuse
de verser les 26 millions supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'elle a bien écouté ce que disait la SNCF, qui disait, compte tenu du trafic aujourd'hui, il n'y aura que, tenez-vous bien, 4 trains par jour dans cette gare à 145 millions d'euros.
Ça a été pensé quand même par des crânes d'œufs quelque part, en se disant on va faire d'abord la gare avant de penser aux trains qui vont arriver. C'est quand même été ça, quoi.
Eh ben, les crânes d'œufs, on leur a demandé de faire une gare. Georges Frêche leur a demandé de faire une gare. Ils ont fait une gare, nonobstant l'absence de liaison. Mais ça, c'est dénoncé depuis des années, notamment par la Cour des comptes, qui avait déjà allumé cette merveilleuse gare Lorraine TGV qui est loin de tout.
Ouh, ça, c'est bien aussi, la gare Lorraine TGV.
Mais qui est à 30 km de Nancy, à 30 km de Metz, à 7 km de l'aéroport, qui est à 15 km du moindre réseau ferré. Et donc, donc la région imagine déjà faire une autre gare TGV à 20 km, histoire de la connecter à cette gare-là et au réseau de TER.
Mais alors Frédéric, donc cette gare, quand même, ils se rendent compte quand même que ça va peut-être pas servir à grand-chose, cette nouvelle gare à Montpellier. Qu'est-ce qu'ils vont en faire?
Ah ben là, là on touche au sublime, mon cher. Oui, un nouveau palais des sports, une annexe du musée d'art moderne pour exposer les statues géantes qu'affectionnait beaucoup Georges Frêche, voire une boîte de nuit.
Ah oui. Voilà. Non, sérieux ça?
Si, 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 c'est
d'accord.
Comme ça.
Eh ben, ça mérite de la musique.
Avec des bâches, mon sol.
À cause des courants d'air. Du coup, les bâches du sol, on les a mis aux fenêtres.
Les bâches du sol, elles sont aux fenêtres. Et la peinture du mur, elle est au sol.
CO2, mon amour.
Mais elles sont où, les fenêtres qui devraient être à la place des bâches?
Les fenêtres, elles sont avec les portes dans le jardin.
Mais pourquoi elles sont pas posées, mes portes et mes fenêtres?
Ben si, elles sont posées, mais dans le jardin.
Mais qu'est-ce qu'elles foutent posées dans le jardin?
Ben avant, elles étaient posées dans l'escalier, mais comme on pouvait pas passer avec les matériaux, du coup, on les a posées dans le jardin. Mais vous faites pas de mourons, le gars qui vous les a livrés va vous les poser, vous portez vos fenêtres, vous portez vos fenêtres.
Et pourquoi il les a pas déjà posées?
Sur France Inter.
Parce qu'il a eu un petit accident, il s'est pris une porte.
Et ben voilà, c'est QFD, c'est formidable. Et ben on va rentrer justement chez vous, on va rentrer chez nous parce que ça se refroidit un tout petit peu. Et on va s'intéresser à un mode de chauffage qui est tout à fait intéressant, qui est le chauffage au bois. Et on va cliquer, alors vous avez aujourd'hui, vous êtes à peu près 5 millions si vous voulez, avec des équipements soit de poêle, soit d'insert. Bon, parfois vous avez poêle, insert et puis d'autres formes de chauffage évidemment. Mais c'est quand même pas neutre du tout. Et puis vous avez les granulés bois, d'où le titre de cette séquence. Si tu écoutes, je granule tout. Salut Charline. et on a à peu près 500 000 aujourd'hui poêles et chaudières, donc concernant ce granulé bois. Alors on a envie d'en savoir plus et on va partir du côté de Chambéry. On va rejoindre à la fois Éric Catoun qui travaille chez Okofen France. Alors c'était les premiers, c'était les Autrichiens qui ont été vraiment très très en avance hein, sur ces sujets-là de chauffage au bois et avec le granulé en particulier. Donc Éric Catoun et aussi Bruno Georges qui est directeur de ITF. Et ITF à Chambéry, c'est un bureau d'études.
Alors on est dans un immeuble qui compte 16 appartements, ouais. À peu près 1300 mètres carrés. Ben, mes 15 voisins se sont décidés, après quelques années de réflexion, à retoquer leur chaudière de fioul qui avait plus de 40 ans pour passer au granulé de bois.
Bon, le bois, il a quand même quelques vertus. Les granulés, on voit à peu près ce que c'est. Quels sont les avantages quand même, de ce granulé aujourd'hui ?
Alors, au dire de mes voisins, ce qui les a convaincus, c'est qu'on a pu passer au granulé de bois quasiment sans faire de travaux. Oui. C'est-à-dire que la chaufferie, l'ancienne chaufferie fioul de notre immeuble, grâce à la compacité du granulé, on a pu l'installer finalement en faisant très peu de travaux. Ce qui veut dire qu'on passe d'une énergie fossile, désuète, à une énergie renouvelable, saine, naturelle, sans forcément faire des travaux qui bouleversent l'installation.
Quelle est la provenance en fait de ces fameux granulés ? C'est quoi ? C'est de la sûre de bois au départ ? Qu'est-ce que c'est ça ?
C'est tout, globalement tout ce qu'on va trouver comme déchets de l'industrie du bois. Alors toute la partie noble du bois, le bois d'œuvre, va bien sûr partir dans le bois construction. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, une grume qui arrive dans une scierie, le trait de scie et les déchets, c'est à peu près 50%. Ah oui. Et globalement, cette valorisation-là, aujourd'hui, permet de fabriquer tout ce qui est granulé de bois.
Et est-ce que les granulés de bois, je sais pas, est-ce qu'on a une provenance de chêne, de résineux, est-ce que ça a le même pouvoir calorifique ?
Ce qu'il faut savoir, c'est que le bois, une fois déshydraté, qu'il soit de feuillu, de résineux, n'a pas un pouvoir calorifique différent. Oui. Ce qui veut dire qu'on peut faire du granulé de bois aux quatre coins de la France, quelle que soit l'essence. Ce sont beaucoup de scieurs qui ont investi dans la production en amont donc de leur scierie pour valoriser leurs déchets dans ces presses à granulés. L'intérêt et l'un des enjeux du granulé, c'est qu'effectivement, avec la répartition sur l'ensemble du territoire de ces producteurs, on a un combustible qui vient la plupart du temps dans un rayon relativement proche du consommateur final. D'autant plus que le granulé, de par sa compacité, se transporte assez facilement, voire aussi facilement que les énergies fossiles traditionnelles.
Qu'est-ce qu'il me faut, moi ? Une chaudière, un poêle ?
Je dirais que ça va dépendre un tout petit peu de l'habitat dans lequel vous trouvez.
Là où on est, bon, c'est une chaudière collective. Hein,
voilà, tout à fait. Après, vous pouvez, en rénovation, si vous n'avez pas prévu de faire des travaux d'installation de système de chauffage central, effectivement installer un système de poêle à granulés qui permet de substituer un convecteur électrique avec une énergie électrique qui est de plus en plus chère, donc c'est un point intéressant. La chaudière, vous pouvez également la retrouver dans cette maison individuelle si vous avez soit un réseau de radiateurs existant ou soit si vous faites l'effort d'investir dans cette installation de chauffage central qui sur le long terme vous permettra de gagner en confort thermique. C'est aussi un des points essentiels.
Alors chez moi, qu'est-ce qu'il me faut ? Parce que est-ce qu'il faut que j'ai un silo avec une vis sans fin ? Comment ça fonctionne ?
Alors, chez vous, c'est assez simple. Hein. On va dire que les installations traditionnelles, vous avez une chaudière qui va faire la puissance adaptée à la taille de votre maison. Et attenant à cette chaudière, vous allez avoir un silo qui fera la plupart du temps pas plus que 3 à 4 mètres carrés en termes d'emprise au sol, ce qui équivaut à 3-4 tonnes de granulés, la consommation à peu près d'une maison standard sur une année entière. L'enjeu important, il est aujourd'hui de basculer sur des systèmes de chauffage au bois performant. C'est-à-dire qu'on a un parc aujourd'hui de systèmes de chauffage au bois avec un rendement variable, on va pas dire...
Parfois un peu faiblard, faut quand même le dire.
Un peu faiblard. Oui. Là, il faut savoir qu'on passe sur des systèmes de chaudières qui ont tous des rendements supérieurs à 90%. Ah, oui. Et on a maintenant même sur le marché, par exemple c'est le cas de Kofun, des chaudières à granulés à condensation, donc qui permettent de se positionner sur les rendements tout à fait équivalents, voire supérieurs à ce qu'on a sur les énergies fossiles.
Je suis sur un coup là.
Aïe.
Une forêt. Avec ça, t'es tranquille jusqu'à la fin de tes jours. La forêt, c'est là qu'il faut investir.
Où ça ?
Dans le nord. Il faut se décider vite.
Et qu'est-ce que tu comptes en faire de cette forêt ?
Eh bois à brûler. Quoi? Ah, y a pas que les éoliennes. Le bois, c'est de l'énergie, c'est bio, ça pollue pas. Puis c'est encore abordable, mais pas pour longtemps. Hein. Ça va grimper, je te le dis. D'ailleurs, ça grimpe déjà.
Moi, je vais me tourner maintenant vers Bruno Georges parce que c'est un homme qui est fou d'énergie renouvelable, mais pas que. C'est quelqu'un qui essaie de nous faire faire des économies, donc bureau d'études ITF. Alors, peut-être quand même commencer tout simplement, pourquoi le bois?
Sûrement parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On aura le choix autre chose que le bois. Mais par contre, on n'a plus le choix de consommer uniquement des énergies fossiles. Ouais. On sait que de toute façon, il n'y en aura plus, donc il faut s'adapter. Et on se prépare à un moment où on sera dans une logique opérationnelle et usuelle et statistiquement majoritaire d'utiliser du renouvelable. Alors, le renouvelable, c'est des tas de choses, surtout pas qu'une seule énergie, que la biomasse. Le renouvelable, c'est aussi le solaire, l'éolien, le maritime. Mais il n'y a pas une bonne solution.
Et puis, lorsque l'on regarde quand même l'actualité, on peut peut-être se dire que le bois, ça correspond quand même à ce qu'on appelle une économie réelle. Je veux dire par là qu'on n'est pas forcément sur un produit géopolitique et complètement spéculatif.
Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, quand on parle d'argent, parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre, ouais, est aussi un facteur de décision. Hein, parce que quand une copropriété, quand un conseil syndical va faire des choix, il faut qu'il ait des bases pour faire ce choix. Il faut expliquer aux gens que le coût, ce n'est pas simplement ce qu'on achète. C'est aussi ce qu'on va devoir payer dans sa vie. Et aujourd'hui, il y a des tas de gens qui ont un vrai problème avec leur charge de chauffage, bien sûr, leur charge de chaude sanitaire. Et cette chose-là, il faut essayer de se débrouiller, de la rendre stable.
Et là, le bois est quelque chose qui peut être plus stable que le reste?
Ben oui, on ne va pas pouvoir trouver un fonds de pension américain qui va racheter la filière bois. Mmh. Ça ne marche pas.
On ne sait jamais.
Les forestiers, c'est des gens immaîtrisables. Ouais. L'intérêt, c'est que personne ne prendra la main là-dessus et donc la concurrence va rester. En gros, on va avoir affaire à un prix économique et non pas à un prix de finance.
Éric Catoun, alors évidemment, lorsque je veux changer et que je passe donc au granulé, bon, ça va être quoi mes avantages et peut-être aussi un peu mes inconvénients? Parce que peut-être qu'on se dit, bah oui, là, c'est pas comme un robinet de gaz, j'ai rien à faire, etc. Donc c'est quoi? Avantages, inconvénients, on va dire.
Alors, petit inconvénient, je l'ai dit à mes voisins d'ailleurs quand j'investis, c'est qu'il va falloir aller tous les 2 mois vider un cendrier.
Oui.
Bon. Tous les 2 mois, sur 4 mois d'hiver, 5 mois d'hiver, c'est 2 à 3 fois dans l'hiver.
Il y en a qui le font tous les jours avec leur clope, hein. Bon.
Voilà. Donc voilà, si on doit mettre un petit bémol, c'est un petit bémol.
Oui, ça va. Bon, et puis éventuellement, on peut amender aussi. Hein, la potasse, c'est pas mauvais.
Alors, c'est même, à mon avis, quelque chose qui va se valoriser très très cher.
Oui. On pourra la revendre, la potasse. Voilà.
Donc vous pouvez, à petite échelle, effectivement, bâtiment domestique, le valoriser dans votre jardin. Sur des plus gros bâtiments, des bâtiments collectifs, on va effectivement le retrouver dans les champs, puisque ce sont des cendres propres, totalement valorisables.
Alors, ce qui est assez génial aussi, Bruno Gibert, c'est que aujourd'hui, on peut utiliser ça, donc on comprend bien, en résidentiel, en collectif, on peut peut-être même, je sais pas, en réseau de chaleur, enfin, tout est possible.
En ce moment, on va pas dire que c'est récent, mais quand même, il y a des effets de seuil qui font qu'aujourd'hui, des machines, on va dire un peu des petites machines, puisque les chaudières granulées qu'on trouve sortent d'une certaine gamme, ont une genèse historique, et qui font que ce n'est pas des grosses machines. Et donc, aujourd'hui, du fait de l'évolution des qualités d'enveloppe des bâtiments, des qualités de process qu'on utilise pour gérer les chauffages, les ventilations, on se retrouve avec des possibilités technologiques de chauffer de gros bâtiments avec des petites chaudières. Ça veut dire qu'on rentre dans des facilités de combinaison, des facilités très concrètes de mise en œuvre dans les chaufferies, des facilités d'effet de gamme, et du coup des histoires de prix. Puisque quand j'achète une chaudière que le constructeur meilleur du monde vend une fois tous les 36 du mois, fatalement elle coûte cher. Quand j'achète de la chaudière qui vend tous les jours et qui est standard, eh bien on rentre dans une économie de marché qui nous permet de faire des conceptions de bâtiments de 5-10 000 m2, de bureaux par exemple, ou d'administration, chauffés avec 2 ou 3 petites chaudières qui d'habitude étaient réservées à une petite mairie. Mmh. Et ça, il y a un potentiel qui est intéressant parce que du coup, on récupère la R&D récente. C'est-à-dire qu'on récupère de la technologie innovante, on récupère de la technologie à condensation, on récupère même, on va commencer à récupérer du moteur Stirling, c'est-à-dire des chaudières qui, à quantité d'énergie consommée, vont pas transformer tout en chaleur, mais une partie en chaleur et une petite partie en électricité. Et là, dans quelques temps, chaque fois qu'on fera un peu de chauffage, en même temps, on fabriquera l'électricité qui permettra d'alimenter les pompes, d'alimenter les ventilateurs.
Ça c'est génial. Là. C'est...
On va vers le bâtiment énergie positive, vers le bâtiment qui compense sur site ses propres consommations. Et puis, tout de suite, là-demain, on va vers Tepos, le territoire.
Il en plus au bois, et les haies sont coupées. Car ici, on ne pense qu'à la rentabilité. Voyez, dansez.
Entrez dans la danse, oui. Voyez dans mon danse. Sautez, dansez, tronçonnez qui vous voudrez.
Eric Catoun, allez, on va prendre une maison, on va dire un peu standard, 120 mètres carrés. Ça donne quoi en consommation ?
Alors, bien sûr, ça va dépendre de la nature de la maison.
Bien sûr.
Vous avez une maison plutôt ancienne, vous consommiez 2000 litres de fioul. Il faut savoir que l'équivalent en termes de granulés, c'est à peu près 4 tonnes de granulés.
D'accord, donc ça c'est la passoire thermique, on va dire, de base, quoi, aujourd'hui.
Voilà, maison, malheureusement, par rapport à
l'année 70-75. Bon.
Aujourd'hui, la même maison, on a parlé de facteur 4, hein, tout le monde a entendu parler. Donc facteur 4, ça s'applique aussi pour le granulé. 4 tonnes de granulés hier.
Ah, il n'y a plus qu'un.
Une tonne demain. Et aujourd'hui, une maison qui est construite selon de même surface, construite sur les standards de la RT 2012, on est dans cet ordre de grandeur de puissance. Alors l'un des intérêts de la chaudière et des technologies de chaudière à granulés de bois, c'est justement qu'elles sont évolutives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on installe une maison, on peut installer une chaudière qui va faire 15 kW et puis qui demain, si vous isolez D'accord. votre maison, on pourra réduire sa puissance et vous garderez la même chaudière. Donc ça, c'est un enjeu aussi important puisque on voit souvent des propriétaires qui font conjointement les deux types de travaux, isolation et chauffage.
Alors aujourd'hui, on est à peu près, on va dire, à 350 euros donc la tonne. Il faut dire que la TVA est passée de 5 à 10% hein, quand même là aussi d'un coup. Donc ça fait augmenter évidemment le cours. Et puis pour en parler, Guillaume Planchot est avec nous, président de l'association Via Seva. C'est très joli, c'est la route de la sève de la ville, la Via Seva. Et alors Guillaume Planchot, vous êtes spécialiste aussi des réseaux de chaleur. Donc évidemment que le chauffage au bois, ça vous intéresse. Merci d'être avec nous, bien sûr avec Frédéric Denry pour l'actualité. Petite définition, parce qu'on a 650 réseaux de chaleur. Définition d'un réseau de chaleur, s'il vous plaît.
Alors, un réseau, ça va être un système central à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. Et il va y avoir une chaufferie principale, urbaine, qui va être alimentée par des énergies renouvelables si possible, et qui va distribuer via des canalisations qu'on installe sous les routes des bâtiments. Il y a aujourd'hui 36 000 bâtiments qui sont raccordés à des réseaux de chaleur en France.
Alors très souvent des bâtiments collectifs, hein, c'est ça ?
Bâtiments collectifs, résidentiels, bien sûr l'habitat social, mais aussi les hôpitaux, les équipements publics, les écoles, les piscines. Et puis quelques immeubles de bureaux aussi.
Bon, donc il faut évidemment qu'il y ait ce maillage, parce qu'on imagine bien qu'il faut aussi éventrer la voirie, donc ce sont des investissements. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que 50% parmi ces 650 réseaux de chaleur en France, c'est à partir du bois. Alors pas forcément du granulé, mais c'est à partir du bois.
Alors, pour être précis, c'est 50%
en énergie renouvelable. Et dedans, voilà.
Donc 15% de bois énergie.
C'est ça.
Faut savoir qu'il y a 10 ans, c'était 1%. Donc la progression est très importante. Notamment grâce au soutien financier de l'ADEME. Alors, le bois énergie, c'est la première source, le premier gisement d'énergie renouvelable en France. Faut savoir que 30% de notre territoire est couvert par la forêt. Et ça absorbe d'ailleurs 8% des émissions de gaz à effet de serre, de CO2, que l'on émet dans notre pays. Et donc ce bois énergie, il est valorisable sous deux formes. Les granulés, vous l'avez très bien expliqué, qui s'adaptent à beaucoup de bâtiments, à beaucoup, même aux maisons individuelles. Mais il y a aussi la plaquette forestière. Mmh. La plaquette forestière, ce sont des copeaux de bois, hein, le déchet qu'on va ramasser une fois qu'on a transformé le bois. Et ces plaquettes forestières, on peut les consommer, les brûler dans des chaufferies de taille importante qui vont souvent être raccordées à des réseaux de chaleur.
Et donc ce sont des sous-produits de la scierie. On l'a déjà dit, mais on le rappelle, ça c'est important.
Oui, on ne déforeste pas, on ne coupe pas des arbres pour se chauffer. On récupère les déchets des industries primaires du bois énergie, du bois, et puis on en fait du bois énergie.
Bon, alors là, la question aussi, ça va être la question de la santé. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire sur les rejets aujourd'hui de cela? Moi, j'ai vu des tableaux comparatifs. Alors, c'est vrai que si vous avez une cheminée ouverte, là, c'est une horreur pour les particules, ce qu'on appelle les PM10. Bon, si vous avez un appareil qui est moyen, là, c'est pas
pas terrible. C'est en plus vous avez du bois qui est pas sec. Alors là, c'est terminé. Mais en revanche, lorsque vous avez vraiment des poêles à granulés bois avec un chauffage 5 étoiles, ça marche très très bien. Et puis d'une manière générale aussi avec ces fameux réseaux de chaleur. Là.
Alors on est vraiment sur des unités industrielles hein, qui sont sur des puissances de 1 à 50 mégawatts. Donc on a des systèmes de filtration extrêmement performants et très contraignants vis-à-vis de la réglementation. Et on tient bien en dessous des seuils réglementaires les émissions. Donc c'est très contrôlé et très encadré. Donc ça contribue largement à la qualité de l'air, souvent dans les villes, hein, parce qu'on sait que les villes, malheureusement, concentrent l'ensemble des pollutions, hein, que ce soit pour le transport, mais aussi l'énergie. Donc ces réseaux de chaleur contribuent très fortement à la protection de la qualité de l'air dans les villes.
Et lorsque je suis dans un réseau de chaleur, mettons avec énergie donc renouvelable au bois ou bien énergie renouvelable tout court, je n'ai plus en fait d'équipement. J'ai quoi ? J'ai un contrat d'entretien ?
Oui, pour le bâtiment, c'est très simple. Vous avez un poste de livraison avec un contrat d'abonnement, donc avec une partie qui est liée à la puissance de votre bâtiment et puis une partie qui est liée à la consommation de votre chauffage et d'eau chaude sanitaire. C'est très simple puisque finalement, vous n'avez aucun équipement de combustion dans l'immeuble. C'est très simple d'entretien, très sécurisé. Donc finalement, c'est du confort et de la simplicité pour l'utilisateur, associé au mix énergétique qui est en amont, hein, puisque on a un mix énergétique sur ces réseaux de chaleur, et donc on peut choisir l'énergie la moins chère, la moins polluante, au meilleur moment de l'année.
Alors Guillaume Blanchot, donc il y a aussi, je fais un petit focus dessus, et j'y reviendrai parce que on en a déjà parlé dans cette émission, mais un jour je ferai une émission sur la géothermie véritablement. Oui. Ça fait partie aussi de ces réseaux de chaleur.
Oui, alors dans les réseaux de chaleur, il y a plusieurs sources d'énergie renouvelable et de récupération. La première,
on était sur le bois, mais
voilà, le bois 15%. Les autres énergies renouvelables et de récupération parce que par exemple, on récupère l'énergie de nos usines de traitement de déchets. Nos poubelles peuvent nous chauffer. Oui. C'est la première source d'énergie de récupération. Demain, les data centers, les eaux usées, on va pouvoir aussi extraire les calories de ces ouvrages pour les injecter sur les réseaux de chaleur.
La chaleur qui va rester dans les eaux usées se récupère déjà.
Voilà, via des pompes à chaleur, on peut largement les valoriser. Ça, c'est pour les énergies de récupération, c'est la priorité. Ensuite, il y a le renouvelable, la géothermie. Dès qu'elle est présente sous nos pieds, c'est une énergie magique, puisqu'on va à 1800 mètres trouver de l'eau à 70 degrés, notamment en Île-de-France ou en Alsace ou en Aquitaine. Voilà, exactement. Donc ça, ça s'adresse à certaines régions. Et puis, il y a pour toutes les autres régions le bois énergie qui est facilement transportable, puisque même dans un rayon de 100-150 km, on a toujours un gisement largement supérieur aux besoins.
Il faut de toute façon évidemment des circuits courts, on s'en doute bien. Donc le Grand Est, ça marche très bien. Il y a Metz est assez en pointe dans ce domaine. La ville de Mende aussi en Lozère. Murat qui se trouve dans le Cantal. On a même en Ile-de-France aussi.
Oui, en Ile-de-France viennent d'être inaugurés un certain nombre d'installations à Saint-Germain-en-Laye, aux Ulysses et bientôt à Saint-Denis. Donc les chaufferies bois peuvent s'intégrer aussi en ville. Ça nécessite une intégration architecturale bien travaillée.
Bah oui, bien sûr. Et alors, quels sont les freins aujourd'hui pour passer à ces réseaux de chaleur avec énergie renouvelable, on va dire. Parce qu'il faut quand même y entrer.
Alors déjà, on est sur des services publics délégués par les collectivités. Donc ça part d'une impulsion politique. Ensuite, il faut trouver une énergie intelligente à valoriser. Et puis, il faut investir dans les ouvrages de production et de distribution. Donc ça, c'est le métier d'opérateur exploitant de ces réseaux de chaleur. Alors les freins, ils sont essentiellement aujourd'hui liés finalement à la baisse du prix des énergies fossiles et à l'absence de taxes carbone. Donc c'est vrai qu'il y a un effet structurel, conjoncturel actuellement qui fait que les énergies fossiles sont peu chères. Mais notre vision doit être à long terme pour l'environnement et pour le prix des énergies. Donc il faut maintenir une dynamique de développement. Et l'ADEME soutient très fortement cette dynamique. Il faut savoir que dans la loi de transition énergétique, il est inscrit un multiplication par 5 de la chaleur renouvelable distribuée par les réseaux. Donc on a un travail gigantesque devant nous.
Vous chauffez presque d'impatience, Frédéric Doré.
Oui, non, il y a juste un petit paradoxe là, très rapide. On a 7 millions de foyers français chauffés au bois, 600 000 par des granulés. Et pourtant, donc il y a un objectif dans la loi de transition énergétique. Et pourtant, les professionnels du recyclage du bois, qui sont structurés en 2013, disent, voilà, on fait du granulé, mais on n'arrive pas à fournir en France. Le marché n'est pas suffisant, on va être obligé d'exporter, alors même qu'on pousse les foyers français à s'équiper de foyers de granulés. Le bois, c'est étrange.
Pas assez. Oui, peut-être que les gens ne connaissent pas assez encore, voilà, ou ne veulent pas passer.
Oui, et puis il faut encore développer ces systèmes de chauffage, on l'a entendu dans vos reportages, sur les réseaux de chaleur aussi. Il y a encore un potentiel, le gisement est supérieur à notre besoin, et donc on a encore une capacité d'utiliser notre bois localement. Et puis ça, c'est de l'autonomie, l'indépendance énergétique, et ce sont aussi des emplois non délocalisables.
Ah oui, ça c'est important. Alors on avait un petit son, mais on va peut-être pas le passer, parce que là on est un peu court maintenant, mais concernant donc l'actualité, toujours avec vous Frédéric Danhé, les fameux abattoirs. Donc l'association L214 qui s'est bien fait connaître, qui fait quand même un sacré boulot, moins qu'on puisse dire, donc vraiment bravo à eux. Encore de nouveau ce qui s'est passé donc à Limoges, on a l'impression que ça n'arrête pas. Toutes les semaines, il y a un abattoir où il se passe des trucs. Vous avez rencontré une personne tout à fait intéressante qui est philosophe, qui est Joël Zasquer.
Joël Zasquer, à Montpellier, qui a... Pour elle, c'est très révélateur d'un changement complet philosophique au sein des sociétés occidentales. Et elle n'a pas tort, parce que si ce qui arrive aux vaches nous touche, c'est parce que ça nous touche. Et si ça nous touche, c'est-à-dire qu'on est en train de les considérer à nouveau comme, non pas comme étant nous, mais comme étant proches de nous. Ce sont des animaux, nous sommes des animaux. Or, nous vivons dans une civilisation qui, depuis le XVIIIe siècle...
A bien séparé les choses.
Voilà, qui a mis en place la dualité entre l'esprit et le corps. Mmh. Cette dualité fait que les animaux, on peut les considérer comme des machines. Et puis, notre esprit nous permet de faire ce qu'on veut. La société industrielle, la société d'aujourd'hui, est née sur ce rapport, sur cette dualité, pardon, entre l'esprit et le corps.
Mais la bascule, c'est que l'esprit ne peut plus utiliser cette matière vivante à sa guise, maintenant.
On peut plus l'utiliser, parce que sinon, ça ne nous toucherait pas autant, on serait pas autant touché et ému par ces vaches qu'on abat comme on ne devrait pas les abattre. On ne serait pas touché, et si on l'est, c'est parce que ça met le doigt sur l'essentiel, à savoir sur la critique que l'on fait de la société industrielle aujourd'hui. C'est une demande de réalité, c'est une demande de bon sens, c'est une demande de voilà, nous sommes une espèce humaine, on vit sur un monde qui est en quantité finie, sur des ressources qui sont en quantité finie et qui ne peut pas se développer en méprisant à ce point des espèces avec lesquelles on partage des ancêtres communs, des animaux qui en plus sont aussi sensibles que nous, qui ont leur monde à eux. Alors, ce qu'elle me disait est très juste, si on ne prend pas en compte ça, c'est la voie royale, ou bien à une négation de cette séparation, à une négation de cette appropriation du vivant, cette appropriation sensible, ou alors c'est la voie royale à une déification de la nature. Donc c'est les deux faces d'une même médaille assez scientiste. Voilà, ce qu'elle nous dit, et ce que l'on voit dans cette... c'est pas de la sensiblerie, c'est on est des animaux. On n'est plus seulement des êtres de savoir, on n'est plus seulement des êtres intellectuels. Les contraintes écologiques nous obligent à nous remettre les pieds sur terre. Et quand on est les pieds sur terre, on voit qu'il y a des animaux. Ces animaux, on peut les manger, on peut les utiliser, mais en n'oubliant jamais qu'une partie de nous-mêmes se trouve en eux.
Merci beaucoup, cher mammifère Frédéric Danhé. Voilà. Merci à vous, Guillaume Planchot, donc, de nous avoir évoqué, mais bien fait comprendre aussi aujourd'hui l'intérêt de ces réseaux de chaleur. Et ben, nous, on va se retrouver tranquillement la semaine prochaine. On va parler... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire quoi ? Ah oui, un petit coup de COP22 peut-être quand même. Oui, parce que là, ce qui est important, c'est aussi l'adaptation des pays africains. Là, ça rigole pas. Molène, on ira peut-être faire aussi un tour du côté de l'île de Molène. Enfin, on est en train de construire l'émission, vous savez. Mais ça devrait fonctionner comme ça. Grand merci à Marion Philippe, notre assistante, à Xavier Pessudia qui a réalisé l'émission, Hélène Langlois, Élise Christophe qui était aujourd'hui à la technique. Curieux de nature, ce sera 7h55 avec Bougrain Dubourg chez Patricia Martin. Demain, en semaine, Nathalie Fontrelle, c'est à 7h20. Possibilité de réécouter cette émission. Alors là, c'est un peu tôt, hein, mais c'est entre 5h et 6h du matin, demain matin. Et puis sinon, vous avez le podcast, vous en avez l'habitude.